Salut à tous, c'est Jeudi Noir, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, ce soir avec Michel, José et moi-même, et on vous parle ce soir, on est en plein dans l'actualité de l'essai éditorial, attention, on vous parle d'un livre publié chez Agone, un livre de James Conant, qui est un universitaire américain, et qui donc, Agone vient de sortir un livre qui s'appelle Orwell ou le pouvoir de la vérité. Alors ça fait déjà quelques émissions qu'on avait envie de vous parler d'Orwell, et puis ben, la sortie de ce livre nous en donne l'occasion. Alors, ben voilà, on va un livre qu'on a beaucoup aimé, qu'on vous conseille. Et donc, ben, on va essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dedans au cours de cette émission. Pour commencer, on va peut-être rappeler un petit peu rapidement qui est Orwell et puis un petit peu quelle est et sa biographie et puis sa bibliographie aussi, puisque c'est un romancier très important et qui a une vie aussi personnelle extrêmement riche sur le plan littéraire comme sur le plan politique. Donc je laisse la parole à Michel pour nous rappeler un petit peu de qui il est question. Qui est George Orwell, Michel ?
Donc Orwell, j'imagine que beaucoup d'auditeurs le connaissent, mais c'est un écrivain anglais du XXe siècle. On rappelle un peu sa vie quand même, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Il est né dans une famille de petits fonctionnaires coloniaux anglais. Et il a un parcours assez étonnant, autant sur le point de vue personnel que du point de vue politique et intellectuel, je crois. Donc il naît dans cette famille de petits fonctionnaires coloniaux où l'Empire britannique est très très bien vu. Il bénéficie d'une bourse assez jeune et il va donc aller dans des collèges, des lycées, assez huppés. Il sera formé à Eton, qui est une public school anglaise très réputée. Alors public school, ça veut pas du tout dire école publique, en fait c'est presque tout le contraire. C'est une école privée, payante, mais il est boursier lui. Donc très très tôt, et ça il reviendra dans son œuvre là-dessus, il va faire aussi l'expérience de la différence sociale et de l'inégalité sociale, et c'est très important pour la suite de son parcours. Après Eton, il suit la voie normale, entre guillemets, familiale, c'est-à-dire qu'il devient tout simplement flic en Birmanie. Alors je crois qu'il est flic en Birmanie pendant 5 ou 6 ans, dans ces eaux-là, j'ai oublié les dates exactes. Et là aussi, c'est là qu'il va prendre conscience que finalement il a une formule très très, 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 très frappante pour décrire le colonialisme. Que le colonialisme, c'est quoi ? C'est un flic qui tient un indigène par terre pendant qu'un homme d'affaires lui fait les poches.
C'est un résumé qui se tient.
C'est un résumé assez éclairant, je crois, du colonialisme. En ces temps où on voudrait revoir parfois le rôle de la France dans les colonies. Hein. Là, on a un acteur de premier plan qui a pu voir ce qu'il en était. Et assez tôt, quand même, au bout de 5 ou 6 ans, il est quand même complètement dégoûté de ça. Et il va démissionner et revenir en Angleterre. Alors après, il y a peut-être 2-3 aventures qui m'échappent, mais autre expérience importante ensuite pour lui, après avoir été justement donc flic en Birmanie, c'est qu'il va essayer de, en quelque sorte, c'est pas vraiment un travail de journalisme, c'est plutôt, il y a aussi une dimension de travail sur soi. Il va être dans la dèche, à Paris, à Londres, et sur les routes d'Angleterre. Alors, il y a une dimension d'expérience, je pense quand même, de volonté de faire l'expérience de ce que c'est que d'être pauvre. Mais ce qui va en retirer, c'est pas un récit larmoyant sur la pauvreté en France, en Angleterre. C'est plutôt le fait qu'il s'aperçoit à quel point son éducation, finalement, a ancré certaines normes, certaines valeurs en lui, et à quel point il est difficile, finalement, de s'en déprendre. Et il va aussi faire l'expérience de la façon dont on traite les pauvres.
Oui, c'est pas un détail.
Ce qui est pas un détail, parce que donc l'expérience directe, pour le coup, donc qu'on les traite plutôt mal. Par exemple, en Angleterre, ils peuvent pas dormir deux fois dans le même espèce d'asile, où ils sont traités d'une manière déjà assez peu sympathique. Et donc ils sont obligés de faire 20-30 bornes par jour, parce que les asiles sont très éloignés les uns des autres exprès, pour finalement maintenir les vrais pauvres sur la route. Histoire que tout ce qu'ils puissent faire dans la journée, c'est marcher vers l'autre centre pour aller dormir. Et là, qu'est-ce qui les attend ? C'est un bain, plus ou moins obligatoire, mais un bain en général, y a une baignoire remplie de la même eau pour tous les gens. Donc, l'aspect hygiénique est plus que douteux. Voilà, parce que quand vous vous lavez après 30 personnes dans la même eau, sachant qu'ils ont passé la journée sur la route, vous pouvez vous douter que c'était pas beaucoup plus propre. Bon, il y a tout un tas de choses comme ça, et donc ça, il va en retirer donc 2 livres, je crois, un ou 2 livres, qui sont
dans la dèche
à Paris, à Londres et à Paris, ouais. Où justement il raconte tout ça et aussi son rapport finalement à ce que c'est que d'être pauvre et au corps de l'autre.
Donc là, on est dans les années 30,
oui,
en gros. Hein.
C'est ça, on est dans les années 30. À ce moment-là, politiquement, il n'est pas encore bien fixé. Il semble qu'il écrive encore pour les communistes, même si on n'a pas retrouvé les papiers. Mais il semble qu'il écrit pour la presse communiste française. Et à ce moment-là, il se dit, je crois, déjà plus ou moins socialiste ou communiste. Mais son évolution politique est assez lente. pendant longtemps, il dira qu'il était anarchiste tory, je crois. C'est-à-dire qu'il a, assez conservateur et méfiant à l'égard de l'État. Je pense qu'il y a de ça. Et, mais bon, avec cette expérience justement de la misère, il évolue très très sensiblement à gauche. Et il va se retrouver assez vite avec, en gros, les trotskistes anglais, l'Independent Labour Party, le Parti du Travail Indépendant. Bon, et là, ils sont. Alors, c'est un trotskisme, mais rien à voir avec les trotskistes français, hein, je crois, ou pas grand chose. Donc, il a vraiment viré à gauche. Arrive la guerre d'Espagne. Et là aussi, c'est encore une expérience absolument fondamentale pour lui. Parce que bon, il va partir se battre. Alors qu'il est tuberculeux déjà, alors que bon, il est plutôt jeune non plus. Il est sur le front. Il est plutôt affilié au POUM, donc au Parti d'Unification Ouvrière Marxiste. Je crois que c'est comme ça se traduit. Là encore, bon, c'est plutôt du côté trotskiste. Bon, il va se prendre une balle dans la gorge quand même au front. Bon, il s'en sort de justesse. Et pourquoi est-ce que c'est important dans son parcours politique personnel? C'est que c'est là qu'il prend finalement conscience du rôle que peuvent jouer dans les affaires politiques les staliniens et les soi-disant communistes. Parce que, ben, comme vous le savez, tout ce qui ressemble à un libertaire en Espagne, enfin, ou du moins tout ce qui ne ressemble pas à un stalinien à gauche, sera plus ou moins liquidé justement par les agents de Moscou. Et quand Orwell rentre en Angleterre, il s'en sort de justesse là encore, parce que bon, je crois que c'est tenu qu'à très très peu de choses qu'il se fasse arrêter et sans doute torturer et fusiller. Quand il arrive en Angleterre, ben, personne ne dit un mot sur ce qui se passe en Espagne. Et tout ce qu'il lit, c'est de la pure falsification, finalement.
C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas que personne ne dit un mot, c'est que tout le monde reprend tel quel.
Oui, tout le monde reprend tel quel. Oui, tout à fait, t'as raison.
Du Parti communiste, oui. Et la lecture stalinienne des événements.
Voilà. Personne ne lit les choses autrement, et lui, il essaye de le faire, et ben, il a énormément de mal. Il va se faire rejeter par tous les éditeurs pour lesquels il voudrait, auxquels il présente ses écrits. Parce qu'il ne présente pas du tout la version officielle. Donc finalement, il trouve un éditeur dont j'ai oublié le nom, mais c'est dommage, parce que c'est un type assez important, c'est celui qui a publié aussi le Staline de Souvarine en Angleterre. Et donc, il trouve finalement un éditeur, on pourrait dire progressiste ou de gauche, qui n'est pas stalinien, ce qui n'était pas si fréquent à l'époque. Et donc, il va publier son bouquin sur la Catalogne. Et c'est là aussi qu'il engage, je crois, une réflexion sur. C'est là qu'il va engager finalement une réflexion sur le totalitarisme et sur le rapport, c'est celle qui nous intéresse, à la vérité. Parce que ce dont il a l'impression, c'est que finalement le concept de vérité objective, c'est-à-dire plus simplement l'idée que le fait que quelque chose soit vrai ne dépend pas simplement de ce que l'on dit, mais qu'au contraire, que pour dire quelque chose de vrai, il faut que ça s'accorde plus ou moins à ce qui se passe en réalité, ben, n'est plus pris au sérieux. Et même, voire est rejeté, parfois au nom de raisons partisanes, du genre « non, tu ne peux pas dire ça, c'est contre les intérêts du parti ». Donc il faut nier les faits pour favoriser nos desseins. Mais Orwell pense que ça va beaucoup plus loin qu'une simple manipulation ponctuelle. Pour lui, ça peut devenir aussi un mode de pensée.
Et ça, c'est ce qui va le développer donc dans le roman, son roman le plus célèbre, donc qui est 1984, donc rédigé en 48 et qui est donc un roman d'anticipation, comme on sait, enfin qui est à l'époque se présente comme un roman d'anticipation, oui. Dans lequel Orwell imagine une société. Alors ça se passe en Angleterre, d'après Orwell, une société dans laquelle finalement ce qu'il a appris lui de son expérience du totalitarisme serait finalement mis en place, appliqué, avec la présence d'un parti. Bon, Big Brother et tout ça, on connaît ces choses-là, mais avec des approches plus précises sur la manière dont un parti, dans une société devenue totalitaire, cherche précisément à contrôler le rapport même que les individus ont à la réalité, finalement. Hein, si on peut résumer les choses comme ça. Et c'est ça qui est développé dans 84. Et Orwell va d'ailleurs avoir toutes les peines du monde à faire comprendre ça, y compris au moment de la publication du livre, dans la mesure où c'est un bouquin qui est très rapidement récupéré un petit peu à gauche, mais surtout à droite.
Dans le contexte de guerre froide.
Dans un contexte de guerre froide, et le livre est reçu et décrit comme une espèce de critique, plus ou moins explicite de l'Union soviétique. Alors que ce que Orwell s'acharne à essayer d'expliquer au moment de la sortie de 84, c'est que son ambition est plus générale que ça, qu'il s'agit pour lui d'essayer d'imaginer une société justement dans laquelle les mécanismes totalitaires ont triomphé, et il précise dans un certain nombre de chroniques que pour lui, le monde et la société de 1984, c'est pas l'Union soviétique, c'est une société qui finalement serait organisée et régie par des intellectuels radicaux anglais. Donc cette cible-là qu'il essaie de repréciser au moment de la sortie du livre a bien du mal à passer finalement dans l'interprétation qu'est donnée du bouquin. Alors que c'est bien l'enjeu aux yeux d'Orwell, c'est d'essayer de montrer comment justement certains intellectuels, la plupart des intellectuels même, pour dire les choses clairement,
et des journalistes,
ont une fâcheuse tendance justement à encourager, propager et diffuser des mécanismes qui sont ceux de la pensée totalitaire d'après Orwell, et qui effectivement visent ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire l'idée de vérité objective, l'idée que finalement ce qui est vrai, c'est ce qui correspond à des faits, et que chacun peut vérifier. Alors évidemment, derrière ça, il y a ce que tu disais à propos de son expérience de la guerre d'Espagne, et surtout de la manière dont elle est rapportée, notamment en Angleterre, mais ça serait la même chose ailleurs, c'est-à-dire de l'expérience qu'a fait Orwell de la manière dont les journalistes, partisans et militants avaient une tendance à se ficher absolument des faits historiques et de la manière dont les choses se déroulaient réellement en Espagne, pour ne reprendre tel quel que des communiqués qui, d'une certaine manière, exprimaient uniquement un point de vue partisan sur la situation. Et ça, c'est quelque chose qui effraie profondément Orwell, dans la mesure où il a le sentiment à ce moment-là que finalement, c'est l'idée même qu'il pourrait y avoir quelque chose de vrai et quelque chose de faux, c'est-à-dire l'idée que finalement, il y a des faits qui peuvent trancher entre des affirmations vraies ou fausses. Finalement, Orwell a le sentiment que le totalitarisme triomphe là où cette idée disparaît. Et où finalement ne reste plus que certaines descriptions qui sont en compétition, et sans que rien ne permette objectivement de trancher entre la manière dont les uns et les autres décrivent la situation en fonction de leurs intérêts, en fonction des enjeux
ponctuels,
de leurs intérêts ponctuels, ou de la ligne définie par leur parti. Et au fond, on peut dire que peut-être l'enjeu de fond de 1984, de ce roman-là, c'est celui-là, c'est-à-dire essayer de comprendre en quoi cette espèce de liquidation de l'idée de vérité objective est finalement le projet d'une pensée et d'une politique totalitaire, dans la mesure où en liquidant cette idée que y a une réalité qui nous permet de contrôler éventuellement si ce qu'on dit est vrai ou faux, mais en liquidant ça, effectivement, qu'est-ce qui reste ? Il reste simplement des enjeux de pouvoir, des enjeux de parti.
Parce que ce qui reste finalement, c'est l'idée d'une vérité consensus. Mais dans une société où le pouvoir contrôle les opinions, si on n'a plus que le consensus, on n'a plus rien pour s'opposer au pouvoir. Et de ce point de vue-là aussi, je voulais préciser que, évidemment, dans ce que tu as décrit, Jean-Mathias, l'exemple typique qui saute à l'esprit sans doute de beaucoup d'auditeurs, c'est l'Union soviétique et sa falsification permanente de l'histoire,
voilà, des chiffres, statistiques, des
nantes. Mais il faut quand même préciser que pour Orwell, vu son concept de totalitarisme, son concept de totalitarisme pourrait tout à fait s'appliquer à notre société.
Bien sûr.
Sans souci. C'est-à-dire que, à partir du moment, si vous voulez, par exemple, où on a des journalistes qui ne vont plus jamais sur le terrain et qui ne se rapportent plus qu'à des dépêches AFP, mettons, ça devient très très facile d'oublier complètement ce qui peut être réel. Après on peut prendre des petits exemples. Je me rappelle avoir vu sur internet, il y avait eu une manif à un moment à Lyon, et toutes les descriptions qu'on pouvait avoir nous disaient que les manifestants avaient été regroupés et enfermés dans un carré par les flics, et ensuite chargés. Et sur un site américain où il y avait des photos, qu'est-ce que j'ai pu lire ? J'ai pu lire, qu'est-ce qu'il y a ? Après avoir été attaqué par les manifestants, la police se défend. On pourrait dire là, c'est du parfait stalinisme. C'est vraiment, on camoufle les faits, et puis, on les camoufle pas, on les oblitère, on les fait disparaître et c'est fini. Donc, ici, l'attaque d'Orwell, et d'ailleurs, il semble qu'au début, vous l'avez appelé son roman 1948. était justement ben, pas forcément que l'Union soviétique. Ça pouvait être bien aussi sûr. Bien l'Allemagne nazie, bien aussi sûr. Bien l'Italie fasciste, mais aussi bien que l'Angleterre libérale, ou du moins l'Angleterre, comment dire, sous la coupe de certains intellectuels dits radicaux.
Mais on peut même dire que d'une certaine manière, ce qui est décrit dans 1984, c'est pour Orwell une possibilité historique qui n'a pas de date. Donc oui. c'est pas une critique de l'Union soviétique de la guerre froide ou de l'Allemagne hitlérienne. C'est une possibilité qui en quelque sorte est en germe et qui peut effectivement se développer de manière plus ou moins aboutie finalement dans n'importe quel type de société. Hein. Alors le livre de Conant là dont on vous parle ce soir, là Orwell ou le pouvoir de la vérité aux éditions Agone, s'intéresse justement à cet aspect-là de l'œuvre d'Orwell et à certaines lectures qui en sont faites, hein, en insistant justement sur l'importance qu'a aux yeux d'Orwell cette idée de vérité objective, dont finalement il considère que le projet totalitaire consiste à chercher à la liquider. Et il y a notamment, alors bon, il y a un passage célèbre du roman, mais qui, d'après Conant, l'auteur du livre, est vraiment au cœur hein, de 1984. Hein. Alors bon, je vous lis ce qu'il appelle le passage focal, hein, qui semble, d'après lui, vraiment définir le projet d'Orwell. Alors c'est une citation de 84, dans laquelle Orwell écrit... donc en parlant par Winston, qui est le personnage central du roman, « Le parti vous disait de rejeter le témoignage de vos yeux et de vos oreilles. C'était son commandement ultime et le plus essentiel. Le cœur de Winston, le personnage, défaillit quand il pensa à l'énorme puissance déployée contre lui, à la facilité avec laquelle n'importe quel intellectuel du parti le vaincrait dans une discussion, aux arguments subtils qu'il serait incapable de comprendre et auxquels il pourrait encore moins répondre. » Et cependant, c'était lui qui avait raison. Ils avaient tort et lui avait raison. Il fallait défendre l'évident, le bêta et le vrai. Les truismes sont vrais, cramponne-toi à cela. Le monde matériel existe, ses lois ne changent pas. Les pierres sont dures, l'eau est humide et les objets qu'on lâche tombent vers le centre de la Terre. Avec le sentiment qu'il s'adressait à O'Brien, je précisais de qui il s'agit, et aussi qu'il posait un axiome important, il écrivit « La liberté, c'est la liberté de dire que 2 et 2 font 4. Si cela est accordé, tout le reste suit. » Donc ça, c'est le passage de 1984 dans lequel Orwell condense en quelque sorte hein, son analyse des mécanismes du totalitarisme en centrant effectivement la difficulté sur cette idée de vérité objective. Le O'Brien dont il est question ici, c'est l'intellectuel de parti, c'est un des personnages les plus effrayants du roman, qui cherche finalement à convaincre Winston, le héros, eh bien que cette idée de vérité objective n'a finalement pas tellement d'intérêt et que au fond, il est dans l'intérêt de Winston de renoncer à cette idée-là, que c'est finalement beaucoup plus simple pour tout le monde et que finalement, il n'y a aucun argument sérieux qui permette de s'accrocher à cette idée-là, l'idée qu'il existe une vérité objective et que si on pense que les pierres sont dures, c'est parce que, bah, effectivement, on peut
parce
prouver
que... Parce que le parti n'a pas dit le contraire.
Tout à fait.
Et si le parti dit que les pierres sont molles, il faut croire que les pierres sont molles.
Exactement. Et donc, O'Brien, effectivement, s'emploie dans toute une série de
O'Brien,
scènes.
Un personnage particulier, donc philosophe, dirigeant du parti et tortionnaire.
Tout à fait.
Donc, et vous verrez, après une pause musicale, vous verrez que O'Brien a de fortes ressemblances avec certains de nos philosophes. Bien en vue. encore, vous êtes sur Radio Libertaire 89.4. C'est l'émission Jeudi Noir, donc avec Jean-Mathias, José et moi. Nous vous présentons ce soir un livre de James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité. Vous venez d'entendre aussi un morceau de David Bowie qui s'intitule 1984. José m'a informé que David Bowie avait voulu composer une comédie musicale sur 1984, qui n'a pas pu avoir les droits et qu'il avait par conséquent, enfin, il avait quand même recyclé certains de ses morceaux. Voilà, petit rappel, le morceau qu'on a passé en générique, c'est un morceau d'un tout autre genre, qui s'appelle Dead Kennedys, donc un groupe de hardcore américain, qui s'intitule California Uberales. Je suis pas germaniste, donc je le prononce mal.
Qui est germaniste ici?
Jean-Mathias en théorie. Donc, mais c'est vraiment une théorie. voilà, qui signifie donc la Californie par-dessus tout, enfin le pouvoir à la Californie. Et donc c'était un morceau qui s'en prenait à un gouverneur qui avait sans doute quelques visées antidémocratiques et sécuritaires. Voilà, donc on a trouvé plein de morceaux qui parlent de 84. Ça a pas mal influencé la culture rock. Donc alors, dans la première partie, donc, on vous a un petit peu exposé la position d'Orwell, sa vie et sa position en particulier par rapport à l'usage du concept de l'idée de vérité, en son sens assez commun, pas forcément philosophique demeurant. Et là, on voudrait justement aborder le livre de façon un petit peu plus directement, donc le livre de James Conant, Orwell ou le point de la vérité, publié chez Agone très récemment, sur une interprétation qui a pu être faite de 1984. Et une interprétation qu'on va appeler constructiviste ou relativiste, on va vous expliquer un petit peu ça après. Et pourquoi cette interprétation est sans doute complètement fausse, même si cette interprétation n'accepte pas les catégories du vrai et du faux, peu importe. Voilà, donc Jean-Mathias, tu veux commencer?
Oui, peut-être pour
parce que c'est un peu abstrait tout ça.
C'est un peu abstrait. Alors pour préciser un petit peu le propos du livre, qui se lit très bien, là on vous le recommande. Il y a pas mal effectivement peut-être c'est un peu pas forcément évident de préciser les enjeux, mais le livre lui-même se lit très bien, donc ça il n'y a pas besoin d'être un philosophe chevronné ultra diplômé pour lire ça, donc pas de difficulté là-dessus. Mais pour bien comprendre finalement quel est le propos de Conant, moi je voudrais revenir juste rapidement sur le roman d'Orwell pour rappeler finalement trois notions qui apparaissent dans le roman et qui sont autour desquelles Orwell revient en permanence. C'est les notions de novlangue, de double pensée et la doctrine de la mutabilité du passé. Alors ça, ce sont trois aspects qui sont, à mon avis, à juste titre, soulignés par Conant dans le livre. C'est finalement les trois piliers de la doctrine du parti sur cette notion de vérité objective, ou plutôt sur l'idée que finalement il n'y a pas de vérité objective selon le parti. Le novlangue, c'est quoi? Alors bon, c'est des choses qui sont assez connues. C'est le projet qui est mené par le parti au pouvoir dans 84, d'épurer finalement tout le langage, de ses ambiguïtés et de toutes les connotations précisément réalistes qu'il pourrait avoir, ou de toutes les manières dont les mots, le vocabulaire peut renvoyer à la réalité, à la liberté ou à des projets d'émancipation divers et variés. Donc il y a tout un travail dans 84 de la part du parti pour épurer le langage.
Épurer, ça veut dire une destruction énorme finalement.
Et systématique.
C'est-à-dire que par exemple tout un tas de mots comme liberté, égalité, fraternité, pour ne citer que cela, bon, il se trouve qu'on est en France, seraient résumés avec tout un tas d'autres sous le vocable pensée-crime.
Voilà. Crime de pensée. Donc là, une espèce de propagande systématique qui s'attaque directement au langage et qui est propre effectivement au mécanisme totalitaire. Donc ça, c'est pour la notion de novlangue. Et alors, peut-être encore plus au cœur de ce qui nous intéresse ce soir, la notion de double pensée, qui est mise en avant aussi par le parti. Alors ça, c'est finalement une notion assez fascinante quand on y réfléchit et qui est proprement orwellienne pour le coup. La double pensée, c'est quoi? C'est finalement le mécanisme par lequel...
Un mécanisme psychologique
par lequel finalement on peut être amené à croire que quelque chose est vrai, tout en sachant pertinemment que c'est faux, sans que ça pose problème. Voilà, pour résumer.
En étant convaincu que c'est vrai.
Voilà.
Ce qui fait que c'est contradictoire, et Orwell le remarque.
Tout à fait. C'est-à-dire que la double pensée, ça consiste finalement à accepter l'idée que c'est le parti qui peut dire la vérité, à croire que c'est vrai, d'une certaine manière, tout en finalement continuant à avoir les moyens de savoir que c'est faux. Si je résume les choses.
Ne serait-ce que par les souvenirs personnels,
les faits ou les sensations qu'on peut avoir.
Je sais pas, j'invente un exemple. Winston Smith se souvient qu'il y a 5 ans, alors qu'il était en train de fumer une cigarette, il a entendu qu'on déclarait la guerre à l'Eurasia. Et puis, 5 ans plus tard, on dit que jamais on a été en guerre contre l'Eurasia, mais contre, je sais plus comment il s'appelle l'autre, le troisième bloc.
L'Océania.
Bon, et il sait que il se souvient d'un moment de sa vie, au moment où le pays est en guerre contre tel autre pays. Et le processus de double pensée impliquerait qu'il soit aussi obligé de réviser ses souvenirs propres, indépendamment même des documents qui pourraient attester de la véracité ou de la fausseté de cette information.
De manière à pouvoir croire, malgré ses souvenirs, ou en dépit de ses souvenirs, que, effectivement, le parti n'a jamais été en guerre.
Ce qui est extrêmement destructeur d'un point de vue personnel.
Qui est même le fond, effectivement, ce qu'il y a de plus effrayant dans le totalitarisme d'après Orwell, c'est-à-dire la manière dont, finalement, il oblige chaque individu à devenir un schizophrène, d'un point de vue clinique. Donc ça, c'est le deuxième pilier, la double pensée. Et le troisième, qui est peut-être un peu plus familier historiquement, celui de la mutabilité du passé. Ça renvoie finalement à la double pensée, mais c'est l'idée que finalement c'est le parti qui décide de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le passé en tant que tel n'a rien de fixé, n'a rien d'objectif. Qu'est-ce qui a pu se passer? Bien finalement, ce que le parti décide d'en dire à un moment donné. Et en essayant d'obtenir l'accord le plus large sur sa version. Alors ça renvoie bien évidemment à des choses qui nous sont familières.
En essayant d'obtenir, en imposant par la force, l'accord le plus large sur sa version.
Avec cette idée que finalement, il faut que chaque individu arrive à croire sincèrement, que le passé n'existe pas de manière objective, mais qu'il dépend finalement de la version qu'en donne le parti. Alors ça renvoie bien sûr à des choses familières historiquement, comme la manière dont le régime stalinien a pu gommer systématiquement des documents et des archives, la présence de certains opposants. Mais dans 84, c'est quelque chose qui est systématisé, d'une certaine manière.
Et très concrètement, c'est quelque chose qu'on peut retrouver aujourd'hui, je pense, avec par exemple cette espèce d'amnésie des journalistes qui est souvent formidable. L'affaire Doutreau là-dessus est exemplaire. Donc c'est quasiment les mêmes journalistes qui à un moment incendient des gens et les traitent de monstres, de pédophiles, de ceci, de cela, et qui 3 ans ou 4 ans plus tard, je ne sais plus la chronologie exacte de cette affaire, vilipender le juge Burgot et dire voilà, ces salopards de juges ont condamné des innocents, des tas d'innocents, et dans l'intervalle, ils ont totalement oublié qu'ils faisaient partie de la meute qui aboyait et qui hurlait 3 ans plus tôt.
Alors moi, j'ai un petit exemple qui me reste en tête aussi, qui est un peu plus simple. Peut-être je peux me tromper, mais il me semble que ça rentrerait assez finalement dans les catégories dont on vient de parler, la double pensée, doctrine de la mutabilité du passé. Quand Sarko était encore président, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il y a eu un petit épisode sur lequel personne s'est vraiment appesanti, mais c'est un épisode au cours duquel il affirmait qu'il était présent au moment de la chute du mur de Berlin, et qu'il était parti, alors avec Copé à l'époque, on ne parlera pas de Copé ce soir si c'était dans cet épisode, mais avec Copé et Juppé, et qu'ils s'étaient trouvés tous les trois, effectivement, ils avaient été prévenus que le mur était en train de tomber, et ils se seraient retrouvés là. Et bon, ce que Juppé à l'époque avait poliment démenti, et effectivement ce que n'importe quel recoupement d'informations aurait pu prouver, c'est-à-dire que Sarko était, je ne sais pas où, il devait être en déplacement ailleurs, c'était officiel, etc. Et Sarko y allait sans vergogne, en affirmant que oui, il était là quand le mur de Berlin était tombé, quand De Gaulle avait bref. Et il
écoutait la radio pour l'appel du 18 juin.
C'est ça, pour l'appel du 18 juin. Mais
il était présent aux côtés de Vercingétorix, en celui à gagner à Gergovie. Enfin bon, moi,
c'est une hypothèse que je fais. Je peux me tromper, mais pour moi, il n'est pas exclu qu'au moment où Sarko déclare ça aux médias, il y croit lui-même. Et on serait dans un cas de double pensée typique, c'est-à-dire effectivement dans l'idée que la vérité objective, c'est quoi? C'est l'intérêt du moment et la version qu'on peut en donner. Voilà. Donc c'est pour vous situer un petit peu les choses avant de revenir à ce qui nous intéresse, donc à 84 et à lecture.
Puis aussi pour montrer que la double pensée, même si ça peut paraître bizarre quand on l'expose de façon un petit peu abstraite, est en fait beaucoup plus répandue qu'on l'imagine.
Absolument, absolument. Alors, et elle n'est que systématisée, dans 84.
Et poussée à ses limites satiriques, parce que c'est
exactement.
84 est un roman satirique qui pousse à l'extrême certains traits. de nos sociétés.
Bien sûr.
C'est pour ça qu'on peut donner aussi 2-3 exemples, parce que bon, ça pourrait paraître
garide. Alors, sur l'aspect un peu théorique maintenant de cette affaire-là, ce qui intéresse Conant, là, l'auteur de Orwell ou le pouvoir de la vérité, c'est que, selon lui, finalement, le discours qui est tenu par le parti dans 84, notamment autour de ces questions-là, est en réalité beaucoup plus proche, qu'on ne pourrait le croire, de nombreux discours philosophiques ou intellectuels qui sont tenus dans nos sociétés. Au fond, l'idée de Conant, et sa cible ici, c'est un auteur américain qui s'appelle Rorty, qu'on n'est pas obligé d'avoir lu dans le détail hein, pour lire le livre de Conant, mais l'idée de Rorty qui résume d'une certaine manière pas mal de positions développées par d'autres aujourd'hui, et qui sont finalement assez...
Faut y aller là. Foucault.
On peut parler de Foucault, on peut parler de Derrida, d'un certain nombre d'intellectuels français,
Deleuze.
On peut parler aujourd'hui de...
Alors, faut citer des noms, parce que c'est des gens qui sont...
Oui, de Bruno Latour aussi, voilà. De gens comme
oui.
ça.
Bruno Latour, c'est moins sérieux, mais oui, mais c'est
de...
Oui.
Mais en fait, de gens qui ont pignon sur rue, sur France Culture et dans les médias...
Baudrillard.
Intellectuels français, et qui développent tous, finalement, qui s'accordent tous sur l'idée qu'au fond, bien, il n'y a pas de vérité objective, c'est-à-dire que finalement, il n'y a que des discours sur la réalité, que des manières de décrire la réalité en fonction des intérêts, des points de vue, de la sensibilité, ou des convictions des uns et des autres, et qu'en réalité, ce qui permet de trancher entre toutes ces descriptions, ce sont
des rapports de force.
Alors, c'est pas ce qu'ils disent. Ce n'est pas ce qu'ils disent. C'est-à-dire que l'idée selon laquelle, finalement, il n'y aurait rien d'extérieur à nos discours. Voilà. Que tout, finalement, est discours, tout est effectivement langage, et que finalement, on est tous dans des langages, dans des descriptions particulières, et qu'en réalité, il n'y a rien, aucune instance extérieure qui permettrait de définir si ce qu'on raconte est vrai ou faux.
C'est une position bien commode pour des professionnels du discours, mais enfin. Bon.
Ça aide. C'est ce qu'on appelle, alors, pour mettre des étiquettes, et parler un peu avec des ismes, ce qu'on appelle habituellement les théories constructivistes de la vérité. C'est-à-dire que la vérité est une construction sociale et qu'elle n'a pas d'objectivité, elle ne peut pas s'appuyer sur une réalité extérieure à laquelle elle correspondrait ou pas. Alors, ce qui est une première remarque, c'est que c'est évidemment c'est des conceptions théoriques de la vérité, assez abstraites déjà, qui n'ont pas grand-chose à voir finalement avec notre concept ordinaire de vérité. Enfin, la plupart du temps, quand je dis est-ce que l'eau est chaude ou froide,
on se réfère à aucune théorie.
On se réfère pas à une théorie. Dans la vie courante, on sait utiliser le terme de vérité.
Et on l'utilise tout le temps.
Et
les intellectuels constructivistes l'utilisent tout autant que nous.
Vraisemblablement.
Chéri, il y a de la bière au frigo.
Voilà. Alors, chéri, il y a de la bière au frigo. N'importe qui.
Non, c'est le macho, j'en ai pas acheté. Débrouille-toi. Mais non, il n'y a pas de bière au frigo. Quoi. C'est tout, c'est comme ça.
Soit il y en a, soit il n'y en a pas.
Donc, il peut dire qu'il y en a.
Absolument.
Il peut se mettre d'accord avec sa femme pour dire qu'il y en a, il y en a pas.
Et donc ce qui est visé par Conant, c'est finalement toute une famille de pensée, une tendance, on va dire, une tendance qui est propre. Alors là, ça serait plutôt Orwell qui parle, qui est finalement propre aux intellectuels et à l'intellectualisme, hein, c'est-à-dire une espèce de travers qu'auraient les intellectuels pour en quelque sorte liquider finalement l'idée de réalité, sans faire forcément, sans avoir qu'on ait, d'après Orwell, besoin d'une théorie de la réalité, de ce que c'est, de faire toute une métaphysique là-dessus. Non, simplement, les intellectuels ont une fâcheuse tendance à oublier qu'il y a des faits, qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas en notre pouvoir, et qui ne se réduisent pas simplement à la manière dont on les décrit ou dont on en parle. Voilà. Et c'est une fâcheuse tendance qu'ont les intellectuels. Pourquoi ? Alors ça renvoie à ce que tu disais à l'instant. C'est parce que on peut faire l'hypothèse que si les intellectuels ont une fâcheuse tendance à oublier les faits ou à faire comme si les faits n'existaient pas, c'est qu'évidemment du coup ça libère tout le pouvoir du discours. Et comme ils sont des hommes du discours, des hommes de langage, des hommes de théorie, évidemment ça leur confère aussi des pouvoirs complètement exorbitants, puisque ça veut dire que chaque personne en mesure de maîtriser le langage est en mesure de créer d'une certaine manière, de créer du vrai. Hein, et que finalement, la vérité est au pouvoir de ceux qui maîtrisent le langage. C'est exactement, d'après Conant, le projet du parti dans 84 lorsqu'il essaie de construire la novlangue.
Un petit aparté, c'est Jean-Jacques Derrida qui s'imagine qu'il accomplit une révolution en mettant un A à la place d'un E dans le mot différence. C'est-à-dire que quand, évidemment, tout dépend du discours, vous pouvez faire une révolution par jour dans votre salon, sans avoir jamais besoin éventuellement de mettre les pieds dans la rue ou dans un syndicat, par exemple.
Sachant que, voilà, ça veut dire que du coup, effectivement, ce qui devient possible dans une approche constructiviste comme celle-là. Il y a plein d'écoles différentes là-dedans. Ça regroupe tellement de monde finalement que ça serait difficile
Surtout qu'ils sont souvent pas d'accord entre eux.
Ils sont pas d'accord entre eux. Mais vous avez des gens qui considèrent qu'ils adoptent simplement un point de vue juste descriptif. Voilà, ils disent c'est comme ça. C'est quoi la réalité, hein? Prouvez-moi qu'est-ce que c'est que la réalité. C'est quoi un fait? Moi je ne sais pas. Vous savez, je fais de l'histoire. J'analyse des discours, des témoignages, et puis après je compare, et puis j'essaie de trouver quelque chose de plausible, mais finalement je suis jamais confronté à des faits, etc., ce genre de choses. Bon, alors ça c'est dans le cas de l'histoire par exemple, et ça nous renvoie à la mutabilité du passé, qui est un des piliers du parti.
Que là il peut y avoir une différence entre une position qui dit j'interprète des traces ou des choses de la réalité extérieure, et la mutabilité du passé qui est encore un peu plus extrême, je pense, mais...
Oui, c'est extrême, mais c'est la même idée. C'est-à-dire que vous avez beaucoup d'historiens qui sont prêts à vous tenir, par exemple, l'idée que, la vérité objective, tout ça en histoire, ça n'existe pas. Il y a simplement des manières de coordonner, d'interpréter des textes. Et puis après, il y a d'autres manières, d'autres interprétations, mais que finalement, il n'y a jamais aucun fait qui permette de trancher.
Dans ce cas-là, il faudrait qu'ils nous expliquent ce qui distingue leur discipline du roman, mais bon.
Oui, et puis il faudrait qu'ils nous expliquent du coup effectivement au nom de quoi, par exemple, on peut simplement dire que une position comme celle du révisionnisme est fausse.
Oui.
Voilà, tout simplement fausse. Après, indépendamment du jugement qu'on porte là-dessus, mais simplement dire qu'une position comme celle-là.
L'indignation morale. Sur quelle base est-ce qu'on se dit, on se place pour condamner le révisionnisme à partir de ce type de position épistémologique, de position sur les possibilités de la connaissance que l'on a.
Et d'après Orwell, précisément, un monde totalitaire ou une société totalitaire, ça serait précisément une société dans laquelle on ne pourrait plus dire, hein, et on ne pourrait plus effectivement être en mesure de dire que le révisionnisme est faux. Voilà, ça serait un bon exemple de ce point de vue-là.
Et donc si vous voulez, pour aller très très vite, hein, parce qu'on va vous passer un petit peu de musique et puis on aimerait bien vous dire autre chose, mais on ne va pas forcément développer... Si vous pouvez essayer de lire le bouquin de Conant, l'équation qui se pose à la suite de cette analyse, c'est très simple, hein, c'est que des gens comme Horty ou Foucault défendent en fin de compte des positions qui sont très très proches de celles d'O'Brien. À savoir que
l'intellectuel de parti qui cherche à convaincre Winston le roman que effectivement il n'y a pas de vérité objective et que si le parti décide demain que 2 plus 2 font 5, eh bien
2 plus 2 font 5 et que les pièces sont molles.
Absolument.
Parce que finalement, à force de ne comprendre la vérité qu'au sein de rapports de force et de pouvoir, et sans reste, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dehors de ces rapports de force, de pouvoir, ou chez Horty de consensus et de discussion gentille et libérale entre intellectuels d'université américaine, parce que Horty aussi est très très ethnocentriste, il l'assume, c'est le pendant de sa négation de la vérité. Tout ce qu'on peut croire vrai, c'est ce que nous croyons vrai. Et nous, c'est qui? Nous, c'est les gentils libéraux américains en quête de progrès social. Donc ici, il y a une équation qui est peut-être un peu brutale, mais à mon avis assez importante à poser. Voilà, c'est que il n'y a pas tellement de différence en termes de position entre le tortionnaire philosophe chef de parti qui s'appelle O'Brien et l'intellectuel de gauche progressiste qui s'appelle Horty ou Foucault. Et ceci étant lié à leur conception de la vérité. Donc, on y reviendra après une pause musicale, histoire que vous vous reposiez.
Just like
Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans vie ni maître ni publicité, et c'est Jeudi Noir, avec José, Michel et moi-même, autour d'un livre ce soir, l'édition Agone, très récemment, livre de James Conant, qui est intitulé Orwell ou le pouvoir de la vérité, et dans lequel il est question du grand roman d'Orwell, c'est-à-dire 1984, et de l'interprétation qu'on peut donner de ce roman sur la question de l'importance de la vérité objective et de la manière dont les régimes totalitaires cherchent à liquider
cette notion de vérité objective en la remplaçant par l'idée finalement que ce qui est vrai, c'est ce que le parti décide, ce qui a des effets complètement destructeurs sur les individus. Et qui pose un certain nombre de problèmes dans la mesure où, d'après Conant, cette attitude qui consiste à nier l'idée qu'il y ait une réalité extérieure qui rendrait ce qu'on raconte ou ce qu'on croit vrai ou faux, cette idée-là est finalement, d'après Conant, largement partagée par beaucoup d'intellectuels des deux côtés de l'océan Atlantique. Et le livre de Conant donc s'emploie, comme on a essayé de le dire, à montrer les points communs qu'il peut y avoir entre un des personnages de 84, O'Brien, qui est donc l'intellectuel de parti, qui défend cette idée selon laquelle finalement ce qui est vrai, c'est ce que le parti décide. Et ce que Conant essaie de montrer, à la suite d'Orwell bien sûr, c'est que ce personnage d'O'Brien ressemble furieusement à beaucoup d'intellectuels contemporains qui affirment également finalement qu'il n'y a pas de vérité objective, que toute la vérité est toujours construite par des discours, par des intérêts, par des points de vue particuliers selon certaines perspectives, mais qu'il n'y a jamais rien d'extérieur finalement à ce qu'on dit ou à la manière dont on décrit les choses d'un point de vue particulier. Donc c'est un peu à ça qu'est consacré le livre de Conant, tout à fait passionnant. Juste pour terminer sur ce point quand même, indiquons que, évidemment, Conant le rappelle à la suite d'Orwell, c'est que cette tentative pour faire comme si il n'y avait pas de vérité objective, en réalité, cette tentative n'est pas tenable. C'est-à-dire que, du point de vue même du parti, ce que le parti souhaite des individus, c'est qu'il croit que ce que dit le parti est vrai, parce que c'est vrai.
Il y avait une contradiction. Alors vous avez, Jean-Mathias, le micro de Jean-Mathias a découpé quelques secondes. On a un stalinien en studio et en régie, et en fait je pense qu'il voulait couper la parole à Jean-Mathias parce qu'il n'aime pas du tout ses positions objectivistes.
Il a un petit côté grand frère, José.
Voilà, c'est ça. Donc je vous rappelle que vous êtes sur Radio Libertaire 80.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité, et que nous vous parlons d'un bouquin de James Conant, Orwell ou le pouvoir de la vérité, qui a été publié chez Agone récemment. Voilà, donc, alors, la position, donc, tu disais de ces intellectuels, entre guillemets, parce que on peut se demander dans quelle mesure c'est des intellectuels et pas plutôt des chiens de garde, est tenable, c'est-à-dire, est-ce qu'elle n'est pas finalement autoréfutante? C'est-à-dire, est-ce qu'elle ne se contredit pas à tel point qu'on n'est pas obligé de la. On ne peut pas l'accepter, finalement, sans faire soi-même usage de la double pensée. C'est ce qu'il dit à un moment dans le livre. C'est-à-dire croire que tout ce que le parti dit est vrai, mais pas parce que le parti le dit, mais parce que c'est vrai.
Ça, c'est très fort.
C'est super fort. Mais ici, tu voulais souligner pourquoi ça marche pas. En fait, ça marche pas tout simplement pour des choses qu'on disait tout à l'heure, c'est que dès qu'on sort de la théorie, ça marche plus. C'est une objection vieille comme le monde. On n'invente pas fil à couper de beurre ici. C'est le type. Quelqu'un peut vous dire, je ne sais pas ce qui est vrai. Vous pouvez lui proposer de sortir par la fenêtre. Surtout si vous habitez au 15e. Et ici, il n'y a pas besoin de grandes théories quelconques. Voilà, s'il sort par la fenêtre, il est mort, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, et en règle générale, assez prudemment, il a beau ignorer ce qui est vrai et ce qui est faux, il va sortir par la porte. Et donc, ici, l'idée peut-être plus. Bon, si on la raffine un petit peu, mais au fond, c'est la même, c'est que vous pouvez, en théorie, nier tout concept de vérité objective, à un moment ou à un autre, il va ressortir. Vous pouvez le cacher autant que vous voulez, ou l'ignorer autant que vous voulez, à un moment ou à un autre, il sera là. Et en gros, à un moment ou à un autre, vous cognez contre la table, ou je sais pas moi, ou boire un gin à la place de l'eau, ou boire de l'eau à la place du gin si vous êtes malheureux. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs qui peuvent se produire. Donc, indépendamment de ces considérations alcooliques, on pourrait aussi. Alors, il y a aussi quelque chose dans le bouquin qui est intéressant, c'est le rapport au libéralisme, et je crois que tu voulais pas mal en parler. Alors là-dessus, c'est là-dessus qu'on n'était pas d'accord du tout et qu'on était prêt à s'écharper. Oui,
on est vraiment très très en désaccord. Hein. Va falloir qu'on
travaille hein.
Pour ça. Bon, il nous reste plus que 5 minutes, donc on aura peut-être l'occasion de refaire une émission là-dessus. Non, effectivement, sur cette question-là, alors ça, c'est propre aux interprétations qui sont faites aujourd'hui de l'œuvre d'Orwell. C'est-à-dire que Orwell est, alors notamment en France. Hein, Orwell est peu lu, globalement, ça on peut le dire, et ceux qui le lisent, le plus souvent, le lisent de manière assez discutable. Je pense ici à, aux lectures et aux interprétations qui sont faites de quelqu'un qui s'appelle Michéa, et qui est absolument pas un imbécile, qui dit beaucoup de choses intéressantes.
Ouais, c'est un fils de Stalinien.
C'est un fils de Stalinien, bon, on choisit pas forcément sa famille, mais...
C'est de sa faute.
Mais les lectures que propose Michéa en fait insistent beaucoup sur le caractère un petit peu réac, pourrait-on dire, d'Orwell et sur justement ces formules très de jeunesse. Hein, quand Orwell parle de la notion d'anarchiste Tory, c'est quand il parle rétrospectivement de ce qu'il a été et de manière critique. Hein. Ça, c'est un point important. C'est-à-dire que.
Alors que Michéa le qualifie d'anarchiste Tory, surtout sur l'ensemble de son œuvre.
Comme si Orwell assumait ça, alors qu'en réalité. L'expression d'anarchiste Tory, elle apparaît dans un texte d'Orwell où finalement il critique ce qu'il a été. C'est-à-dire quelqu'un à la fois effectivement d'hostile à l'État et en même temps de conservateur sur le plan moral, etc. Et toutes les interprétations de Michéa sont souvent construites là-dessus, c'est-à-dire voilà, Orwell est un anarchiste Tory, il l'a toujours été, et d'une certaine manière, donc c'est quelqu'un qui est méfiant à l'égard du progrès, de la technique, de l'État, et surtout profondément antilibéral, dans la mesure où le libéralisme, bah, c'est la modernité, c'est l'individualisme, c'est le relativisme, etc. Michéa insiste beaucoup là-dessus, et il y a effectivement, selon moi, un contresens, et bon, je dis selon moi, mais évidemment, je ne suis pas le seul à le penser, un contresens dans la mesure où Orwell revendique, lui, de son côté, ce qu'il appelle une mentalité libérale, c'est-à-dire, justement, un souci permanent de la vérité objective et l'idée selon laquelle la mentalité libérale, ça consiste effectivement à reconnaître à chaque individu la possibilité de construire, de se construire intellectuellement, c'est-à-dire de pouvoir vérifier hein, si ce qu'il dit est vrai ou faux. Alors je ne sais pas si c'est une conception qui est vraiment satisfaisante du libéralisme, c'est quand même une approche assez, assez particulière hein, qui est développée par Orwell.
Qui n'a rien à voir avec le côté économique, parce que sur le côté économique,
bien sûr.
Orwell était radicalement socialiste.
Absolument, sans ambiguïté.
Et là-dessus, il était pour une redistribution absolument radicale des richesses.
Tout à fait.
Plus qu'une redistribution d'ailleurs.
Mmh. Un partage, on peut dire.
Un gros partage, comme il faut. Donc ici, par rapport, moi justement, c'est ce qui me gêne dans cet usage du libéralisme, c'est l'idée que, en France, on entend toujours le libéralisme comme synonyme du capitalisme. Charles Orwell, ça n'a absolument rien à voir.
Pas du tout. Ouais, pas du tout. Mais alors bon, du coup, alors effectivement, on va devoir s'arrêter, mais ça mériterait effectivement ici peut-être d'ouvrir un certain nombre de débats, y compris sur une station comme la nôtre. On est très anti-libéraux en France dans la mesure où le libéralisme, effectivement, c'est avant tout le libéralisme économique. Et puis il y a une tradition qui est celle de l'intervention de l'État, etc.
En même temps, ce qui a empêché les libertaires d'être staliniens, c'est justement la revendication de certaines valeurs.
Et leur fidélité à une certaine forme de libéralisme.
Leur valeur à une certaine valeur libérale du point de vue politique, c'est-à-dire finalement l'importance accordée à la liberté de l'individu, à sa liberté de penser, à sa liberté d'action, face justement à l'oppression possible de l'État. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a quand même une. Et je ne suis pas le seul, on le trouve ça aussi chez Rocker. Rodolphe Rocker qui dit que les libertaires ont beaucoup emprunté aux libéraux.
Bien sûr.
En les critiquant, mais pas du tout de la façon des marxistes. C'est-à-dire que ce que disaient les anars, grosso modo, c'était « Nous, on est d'accord avec les droits de l'homme, on est d'accord avec toutes ces libertés importantes, simplement, on trouve que les libéraux les appliquent pas assez. Chez eux, c'est une façade qui fait joli, mais qui sert à rien. Nous, on voudrait qu'on les prenne au sérieux, ces fichus droits. » Et donc, de ce point de vue-là, l'héritage libéral, il est présent chez les anars. Le problème, c'est que en France, on a toujours cette espèce d'idée que libéralisme égale capitalisme. Et donc, c'est un message qui n'est pas forcément facile à entendre. Alors, on va devoir s'arrêter.
C'était Jeudi Noir, autour d'un livre qui vient de sortir aux éditions Agone, livre de James Conant qui s'appelle Orwell ou le pouvoir de la vérité et qu'on vous recommande vivement,
chaudement. À dans 2 semaines.
Pourquoi moi j'ai toujours fait le panneau?